Charline Vanhoenacker, Éric Delvaux, le 5-7 de France Inter.
Votre invité ce matin, Éric, c'est Nicolas Harpagian, directeur scientifique de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Il est aussi l'auteur du livre « La cybersécurité » sorti en 2010 dans la collection « Que sais-je » au PUF.
Oui, car vous participerez dans quelques heures à Lille au Forum international de la cybersécurité. Ça va durer 2 jours en présence des 2 ministres Manuel Valls et Jean-Yves Le Drian. Bonjour Nicolas Harpagian.
Bonjour.
Alors pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ce jargon, cybercriminalité, cyberdéfense, cybersécurité, c'est de l'espionnage et du contre-espionnage par le biais des nouvelles technologies. En France, qui peut en être victime?
En fait, toute personne qui a des données numérisées. Les données, c'est effectivement nos coordonnées bancaires, ce sont nos correspondances, ce sont pour des entreprises des secrets des affaires, c'est-à-dire des secrets de fabrication ou éventuellement des négociations commerciales, mais également des chancelleries, des diplomates qui doivent négocier des conventions, des traités et des états-majors qui ont des plans stratégiques à conserver secrets. Donc effectivement, toute personne qui a des informations sur des supports numériques.
Alors les enjeux sont divers, hein, ils sont même géopolitiques, ils sont juridiques et ils sont aussi techniques. Techniquement, il est plus facile aujourd'hui d'espionner un smartphone que les téléphones GSM des années 90?
En fait, c'est surtout qu'il est plus intéressant de l'espionner parce qu'on lui confie plus de choses. Il permet de localiser l'utilisateur, il permet d'avoir ses correspondances, ses SMS, c'est-à-dire tout ce qu'il écrit, également lorsqu'il consulte Internet. Donc là, vous avez une photographie quasi exhaustive de la vie du propriétaire du téléphone. Donc effectivement, ça vaut le coup d'investir des moyens et donc évidemment, les États et les entreprises sont très actifs sur ce terrain parce qu'il y a beaucoup à gagner.
Le téléphone d'Angela Merkel notamment a été écouté par les grandes oreilles américaines et en réaction, un peu tardive d'ailleurs, Barack Obama vient de promettre de limiter l'espionnage des dirigeants qualifiés d'amis. Que vaut cette promesse du président Obama?
C'est une promesse, surtout qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas d'échéance pour cette nouvelle politique et puis surtout que le président américain a clairement dit « nous continuerons à le faire et excusez-nous si nos services sont les meilleurs du monde pour le faire ». Parce qu'effectivement aujourd'hui, les États, notamment démocratiques, cherchent à récupérer du renseignement économique pour soit conserver leur avantage, soit éventuellement ne pas avoir de retard. Et donc c'est vrai que le renseignement numérique fait partie aujourd'hui de la panoplie de tous les grands États.
Nous continuerons à le faire, a dit Barack Obama, sauf pour les dirigeants amis, alliés.
Oh, dans le domaine du renseignement, c'est surtout de ne pas se faire prendre. Je pense que ce que Snowden a permis de faire, c'est surtout de révéler de manière très factuelle, d'une part, l'ampleur, la profondeur de cet espionnage et surtout sa grande actualité avec des données très récentes qu'il a révélées. La difficulté, c'est effectivement que les États ont besoin de cette information. Ce qui est très difficile, c'est de se faire prendre, surtout quand c'est avec des partenaires, parce qu'on est des alliés politiques, diplomatiques, mais on est surtout de grands compétiteurs économiques. Et donc, le numérique permet de gérer cette ambivalence, puisque on peut être plaisant tout en écoutant son ami et allié politique.
Alors l'Allemagne, justement, veut aller plus loin et elle demande à ses amis européens de faire un pacte de non-agression, de non-espionnage entre pays de l'Europe. Ça vaut quoi, ça?
Alors, que les Européens s'allient sur cette question, c'est très important. On a vu que Barack Obama avait, lui, opté plutôt pour la division, c'est-à-dire qu'il a dit « je m'expliquerai individuellement avec chaque chancellerie », ce qui prouve bien qu'il ne considère pas que l'Europe est un acteur unifié et homogène. Ce qui est un vrai problème, parce que ça veut dire que lorsque nous devons négocier avec de grands acteurs comme Google, comme Microsoft, comme Facebook, nous arrivons en ordre dispersé, alors que notre puissance économique, notre nombre, devrait nous permettre de peser. Mais surtout, l'alternative, ça va être de créer et de disposer de technologies, j'allais dire, que nous maîtrisons. Souvent, l'Europe est un pays d'utilisateurs de technologies, alors que, par exemple, les Chinois, avec Baidu, ont leur propre moteur de recherche. Les Russes, avec Yandex, ont leur propre moteur de recherche. Ont su développer des offres alternatives. L'Europe, là, est vraiment à la traîne, malgré sa capacité innovatrice et malgré sa puissance économique.
Eh bien, merci, Nicolas Harpagian, donc invité de France Inter ce matin.
Et on rappelle que vous êtes le directeur scientifique de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et que vous participerez dans quelques heures à Lille au Forum international de la cybersécurité.